France Culture.
Journaliste signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Émoi international après les tirs israéliens lors d'une visite de diplomates en Cisjordanie occupée. Que s'est-il passé exactement? Nous reviendrons sur les faits avec Thibault Lefèvre à Jérusalem. Donald Trump demande une enquête approfondie sur les musiciens ayant soutenu Kamala Harris. Bruce Springsteen riposte en sortant un mini-album très politique dont nous parlera Valérie Cantier. Des prisons aux établissements de santé mentale, en passant par les centres éducatifs fermés, partout elle constate un délaissement coupable. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté rend un rapport très sévère, à l'encontre notamment du garde des Sceaux. Nous ferons le point avec Sophie Volatier. Au procès de Joël Le Squarnec, l'avocate du Conseil national de l'Ordre des médecins présente les regrets de l'institution et souligne les efforts engagés pour réparer l'avenir. Compte rendu d'audience de Florence Durm. Alors que l'offensive israélienne à Gaza est de plus en plus critiquée, dans le pays comme à l'international, voilà un incident qui devrait encore renforcer les pressions sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Des diplomates qui effectuaient une visite dans le nord de la Cisjordanie occupée ont essuyé des tirs israéliens aujourd'hui. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem, alors revenons d'abord sur les faits. Que s'est-il passé précisément ?
Alors, il est 13h30, heure locale, 12h30 à Paris. La délégation est au sud du camp de réfugiés de Jenin. Il y a un Français, un Espagnol, un représentant de l'Union européenne, un Britannique notamment, et une vingtaine d'autres diplomates. Ils sont tout près d'une barrière jaune qui empêche depuis le début de l'année les habitants déplacés de rentrer chez eux. Ils donnent des interviews aux médias invités par l'autorité palestinienne, quand soudain... Des coups de feu tirés de l'intérieur du camp, le journaliste palestinien Mohamed Ahmed était sur place.
La délégation de diplomates s'est approchée du camp de réfugiés de Jenin. Elle était sur place depuis une dizaine de minutes lorsque l'armée israélienne a ouvert le feu. Aucun membre de la délégation n'a été blessé, mais les tirs dans leur direction se sont poursuivis durant une minute sans interruption. Ces diplomates, originaires de pays arabes et européens, ont rapidement été évacués.
Sur la vidéo postée sur le compte du ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, on voit clairement deux soldats israéliens, fusils automatiques en joue, en position horizontale. Ce ne sont donc pas des tirs en l'air pour intimider la délégation. L'autorité palestinienne parle par ailleurs de tirs directs à balles réelles qui constituent, je cite, une violation flagrante du droit international. L'armée de l'État hébreu de tirs de sommation sur une délégation diplomatique, délégation qui a, selon un de ses porte-parole, dévié de l'itinéraire approuvé. Les Israéliens disent regretter la gêne occasionnée. Fin de citation.
Mais l'incident a déclenché une salve de réactions, Thibault.
Oui, condamnation unanime. L'Allemagne, l'Égypte, l'Irlande, la France, bien sûr. C'est inacceptable pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui convoque, comme l'Italie, l'ambassadeur d'Israël. Depuis le lancement d'une opération militaire en Cisjordanie le 21 janvier dernier, l'armée israélienne a vidé plusieurs camps de réfugiés, dont celui de Jenin. 40 000 déplacés ont dû quitter leur maison. Et des soldats occupent désormais un territoire considéré comme un bastion des groupes armés palestiniens. Et c'est donc de là, de l'intérieur du camp, que sont partis les tirs.
Merci Thibault Lefèvre. Dans la bande de Gaza, malgré les risques de famine, l'aide humanitaire a toujours du mal à toucher les Palestiniens. Hier, le gouvernement israélien a autorisé l'ONU à faire entrer une centaine de camions par jour jusqu'à vendredi. Des camions sont effectivement entrés dans l'enclave palestinienne, Étienne Monin, mais les distributions n'ont pas pu avoir lieu.
D'après nos informations, 92 camions remplis d'aide humanitaire sont actuellement dans l'enclave, mais rien n'a encore été distribué. Les contraintes imposées par les Israéliens sont incompatibles avec l'opération. La route pour acheminer l'aide n'est pas sécurisée. Et de toute façon, cette ouverture est une rustine. En attendant la mise sur pied du nouveau dispositif de distribution validé par Israël et par les États-Unis. Cette nouvelle architecture sera gérée par une ONG enregistrée en Suisse, dirigée par d'anciens fonctionnaires américains soutenus par le gouvernement de Donald Trump. Elle doit commencer la distribution exclusive de l'aide humanitaire ce samedi sur 5 sites, 4 au sud, 1 au centre, d'après des images satellites de la BBC qui montrent des espèces de fortins entourés de hauts murs de sable et de terre. D'après un document de 19 pages publié par l'ONG. L'acheminement de l'aide se fera par véhicule blindé. La sécurité du site sera assurée par une compagnie de sécurité privée. Chaque lieu de distribution devrait toucher 300 000 personnes. C'est donc la moitié de la population seulement qui sera éligible à ce soutien. C'est l'une des critiques principales. Ce dispositif ne permet pas d'atteindre les plus vulnérables. Les ONG et l'ONU s'insurgent contre ce système qui contourne les voies traditionnelles de soutien. Israël, de son côté, considère que c'est une réponse appropriée pour empêcher le Hamas de mettre la main sur l'aide humanitaire.
Aux États-Unis, The Boss ne se laisse pas intimider par Donald Trump. Le rocker Bruce Springsteen, soutien de la démocrate Kamala Harris lors de la dernière élection présidentielle, sort un mini-album de 4 titres sur toutes les plateformes musicales. Une réponse directe aux attaques personnelles dont il a été la cible il y a 3 jours de la part du président américain. À travers ses chansons politiques, Valérie Cantier, Bruce Springsteen dénonce les menaces pesant sur la culture et la démocratie aux États-Unis.
Les 4 titres live, mis en ligne hier, sont extraits du concert de Springsteen et son groupe The E Street Band à Manchester, au Royaume-Uni, il y a une semaine. Et l'introduction à ce concert donne le ton.
Mon pays, l'Amérique que j'aime, l'Amérique sur laquelle j'ai écrit, qui a toujours été un guide d'espoir et de liberté pendant plus de 250 ans, est entre les mains d'un gouvernement incompétent, traître et corrompu.
Les 4 chansons mises en ligne datent des années 2000, dont Land of Hope and Dreams, traduction Terre d'espoir et de rêve. Grab your ticket and your suitcase, thunder's rolling down this track. Le concert de Manchester n'a pas du tout plu à Donald Trump. Il l'a fait savoir sur son réseau social le 16 mai. Il traite Bruce Springsteen de sale type et le menace. Il ferait mieux de se taire jusqu'à son retour aux États-Unis, écrit le président américain. Et ensuite, nous verrons ce qui va se passer pour lui. Fin de citation. Puis Trump a mis un nouveau coup de pression en annonçant une enquête sur Springsteen et Beyoncé cette fois, les accusant d'avoir perçu de l'argent en échange de leur soutien à Kamala Harris. Et donc visiblement, Bruce Springsteen ne s'est pas laissé impressionner.
Bruce Springsteen qui sera en concert en France les 24 et 27 mai à Lille et le 31 mai à Marseille. Nous revenons maintenant en France pour suivre comme chaque jour le Festival de Cannes. Il accueille aujourd'hui un invité surprise, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. L'activiste australien accompagne un documentaire qui lui est consacré, The Six Billion Dollar Man. Mais la journée est riche et Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large, va nous en rendre compte. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes en direct de Cannes. Vous sortez de la projection de Romeria de l'espagnole Carla Simone.
Oui Aurélie, s'il n'est pas aussi sensoriel et radical que son précédent, Nos Soleils, Ours d'or, il y a 3 ans au Festival de Berlin, Romeria a déjà le mérite de nous guérir du très pénible Alpha de Julia Ducournau. Il en partage en effet le même sujet, l'hécatombe que fut pour toute une génération, les jeunes des années 80, l'épidémie de sida et d'héroïne. En Espagne, la génération de la Movida fut ainsi celle qui, en Europe, en paya le plus lourd tribut et Carla Simone est elle-même issue de cette tragédie, puisque ses 2 parents en sont morts, la laissant orpheline à l'âge de 6 ans. Baignée de fantastique et hantée de fantômes, l'espagnol y travaille la matière même du temps et de la mémoire, recréant à l'image les souvenirs qui lui manquaient, façon sans doute d'afficher comment elle est devenue cinéaste, en revendiquant de quelle histoire elle est faite.
Vous avez aussi vu, Antoine, 2 films sur la mémoire de la Shoah.
Pour le coup, l'aborde de la manière la plus antinomique qui soit. Il y a eu d'abord le nouveau film du trublion russe exilé à Berlin, Kirill Serebrennikov, un habitué des compétitions cannoises, mais remisé cette année dans une section parallèle pour éviter sans doute de surexposer son potentiel polémique. Adapté du livre éponyme d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele retrace en effet la cavale sud-américaine du médecin bourreau d'Auschwitz. Confrontation façon thriller en noir et blanc avec une figure du mal absolu, le film se perd parfois dans sa fascination pour lui jusqu'à une très très problématique reconstitution en couleur et super 8 de ses crimes dans le camp de la mort. On aura de fait été beaucoup plus touché par les premiers pas comme réalisatrice de la star Scarlett Johansson, Eleanor the Great, même s'il n'ambitionne pas de révolutionner le cinéma et qu'une musique malvenue appuie souvent inutilement les émotions qu'il nous procure. Il pose une question de taille quand il s'agit de transmettre la mémoire de la Shoah. Qu'est-ce qui compte le plus, le message ou le messager? Le tout est porté par une pétulante actrice de 95 ans, June Squibb, comme un beau passage de témoin à rebours du temps et de l'histoire.
Merci Antoine. On vous retrouve demain dans le journal de 18h. 4 800 détenus dormaient l'année dernière sur un matelas au sol, un chiffre en hausse de plus de 30% par rapport à 2023. C'est un constat parmi d'autres tiré du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Au moment où les ministres de la Justice et de l'Intérieur ne parlent que d'accroître sécurité et sévérité, elle alerte une nouvelle fois sur le nombre record de personnes incarcérées en France et sur les conditions de détention qui sont de plus en plus difficiles, Sophie Volatier.
Des rats, des cafards, des punaises de lit, le rapport est formel. Les prisons françaises sont insalubres, voire dangereuses, comme l'explique Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.
Au cours d'une visite, il y a un atelier qui a pris feu. Heureusement, il n'y avait personne dedans parce que le système électrique était dégradé. Il y a un mur de promenade. Ce sont les détenus qui ont été obligés de signaler que le mur il bougeait bizarrement. Il a fallu condamner la cour de promenade parce que le mur allait s'écrouler. C'est dans un état lamentable. Les cellules, elles sont pourries, pourries. Quand on entre là-dedans, je vous jure, on ne sort pas le même.
Les établissements pénitentiaires ne disposent généralement pas de moyens pour entamer des rénovations. Toujours d'après Dominique Simoneau, de telles conditions de détention ont des conséquences. Elles empêchent la prison de jouer son rôle, c'est-à-dire de permettre aux détenus de réfléchir à leur peine et de se réinsérer.
Ça ressemble de plus en plus à de la vengeance. Qu'est-ce qu'on attend de la peine, tous collectivement, notre société ? On attend de la peine qu'elle mette à l'écart, qu'elle punisse quelqu'un qui a commis des infractions. Tout ça, c'est normal, mais pas qu'on enferme les gens dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on espère ? Comment on espère que les gens vont sortir ?
Pour mettre fin à cette situation, le rapport préconise de libérer certains prisonniers par des ordonnances ou par des lois d'amnistie, comme pendant la crise sanitaire.
À l'issue du Conseil de défense à l'Élysée portant sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France, Emmanuel Macron demande au gouvernement de formuler de nouvelles propositions, jugeant les précédentes insuffisantes au vu de la gravité des faits exposés dans un rapport. Nous y reviendrons à 19h avec Stéphane Robert. Pour la présidentielle de 2027, le député de la Somme, François Ruffin, appelle à une primaire de la gauche allant de Poutou à Hollande. L'élu picard qui a rompu avec LFI aux dernières législatives siège maintenant avec le groupe écologiste à l'Assemblée. Tous les partis de gauche, ils l'admettent, n'accepteront pas de participer à cette primaire, mais ils comptent l'organiser dans tous les cas et visent 2 à 3 millions de votants. Bonsoir Mélanie Kuzelevitch.
Bonsoir.
L'objectif de cette primaire, c'est pour lui de rassembler la gauche.
Oui, et tout comme sa candidature à la présidentielle, l'idée de la primaire n'est pas une surprise chez le député de la Somme, mais aujourd'hui c'est un moyen pour François Ruffin d'élargir son audience, analyse Tristan Haute, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille.
Cette proposition de primaire, elle vise plutôt à remettre François Ruffin dans le jeu politique, hein, puisque finalement François Ruffin, qui n'a pas les ressources partisanes sur lesquelles peuvent s'appuyer les autres leaders de la gauche, cherche aussi à exister. Ça lui permet d'être visible dans les médias, d'être sollicité sur les plateaux, etc., etc. Mais c'est loin d'être une solution miracle.
Et toute la question est de savoir si cette primaire va mobiliser les électeurs, ce qui reste très incertain, explique le politologue.
Quand on pose la question aux personnes qui votent pour la gauche, il y a une aspiration à l'unité, très nette. Est-ce que ces personnes vont se rendre aux urnes pour désigner un candidat dont le soutien par les partis politiques de gauche serait très incertain et qui serait peut-être plus un vecteur de division qu'un vecteur d'unité ? Et c'est toujours la difficulté. Une mobilisation des électeurs et électrices, ça ne se décrète malheureusement pas.
Et quand bien même la primaire mobilise, le risque c'est que le candidat élu ne soit pas assez rassembleur, comme lors de la primaire de la gauche en 2017, rappelle l'historien politique Jean Garrigue.
Où on a vu le triomphe du candidat Benoît Hamon, qui en réalité était devenu le candidat majoritaire au sein du Parti socialiste, mais qui, par rapport à l'électorat de la gauche en général, était très minoritaire et qui a fait d'ailleurs un très très mauvais résultat.
Les partis de gauche doivent maintenant se positionner, mais pour l'instant, ils restent plutôt silencieux.
Dernière ligne droite pour la commission parlementaire qui enquête sur les violences scolaires nées de l'affaire Betaram. Elle s'est penchée aujourd'hui sur les conclusions du rapport consacré au collège privé catholique Stanislas à Paris, qui révélait des faits d'homophobie, de sexisme ou encore d'autoritarisme, avec notamment ses cours de catéchisme obligatoire prenant les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles, pratique illégale en France. Bonsoir Marie-Aimée Copleutre.
Bonsoir.
Les 5 inspecteurs académiques ayant enquêté sur Stanislas s'indignent que le rapport ait été modifié et ils pointent du doigt le nouveau directeur controversé du collège Stanislas.
Les inspecteurs dénoncent déjà la modification du rapport encore sur Stanislas à la dernière minute. Juste avant sa transmission au ministre de l'Éducation, un paragraphe a été ajouté à la lettre de transmission qui résume ce rapport. Paragraphe qui dit ceci: l'équipe d'inspecteurs ne confirme pas l'effet d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme dans l'établissement. Or, ce paragraphe n'a jamais été rédigé par les inspecteurs, mais par leur hiérarchie, soit la chef de l'inspection générale académique, Caroline Pascal. Annie Dickmans, l'une des inspectrices de Stanislas, dénonce cette réécriture.
Je pense que quand on agit comme ça, et bien là on ne pense pas aux enfants, et là c'est desservir le travail des collègues. Moi je dis que là c'est mon intégrité professionnelle qui est remise en cause, et c'est très grave.
Autre gravité pointée par les inspecteurs, la nomination en septembre du nouveau directeur de Stanislas, Igor Le Diagon. Il a été de 2013 à 2015 directeur des classes préparatoires du Collège catholique. À l'époque, il était le bras droit de Daniel Chapelier, l'ancien directeur de Stanislas, accusé d'agression sexuelle et de détention d'une soixantaine d'images pédopornographiques. Françoise Boutet, autre inspectrice, condamne cette nomination.
C'est un camouflet pour l'inspection générale. On a nommé quelqu'un complètement acquis à la cause de l'esprit Stan. Voilà, alors on pourrait faire tous les contrôles que vous voulez. C'est un peu désespérant. Moi, j'ai l'impression que Stan ne bougera jamais.
Et dans une lettre ouverte, 23 anciens élèves de Stanislas dénoncent le silence de ce nouveau directeur qui n'a jamais pris la parole sur les violences sexuelles.
Et depuis le milieu de l'après-midi, c'est la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui répond aux questions de la commission parlementaire. Au procès de Joël Le Skouarnec pour viol et agression sexuelle, les plaidoiries des parties civiles se poursuivent devant la cour criminelle de Vannes. Se succèdent les avocats des nombreuses victimes de l'ancien chirurgien, mais aussi de plusieurs associations de défense des droits de l'enfant. Et ce matin, l'avocate du Conseil national de l'Ordre des médecins a pris la parole. Un exercice difficile, Florence Turme, car les instances médicales et hospitalières ont été largement mises en cause au cours du procès.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est constitué partie civile dans ce procès, décision très critiquée par certains qui ont brandi la pancarte complice devant le palais de justice de Vannes. Alors l'avocate du Conseil, Negar Airi, va commencer par parler des victimes. Ce n'est pas une fois 299, mais une, plus une, 299 fois. Le corps cicatrise toujours, l'âme non, poursuit-elle. Elle s'adresse à la cour. La justice a un rôle à jouer pour rétablir l'égalité rompue, rétablir la victime en sa qualité de sujet. Salue au passage le déroulé de l'audience, que chacun d'entre vous ait pris le temps d'avoir un mot. Cette parole qui restaure, c'est encore assez inédit et c'est une réussite. Il y a deux jours, les anciens représentants des conseils départementaux se sont succédés à la barre et j'ai eu parfois honte, à titre personnel, poursuit Negar Airi, des explications apportées. Chacun s'est considéré comme le maillon insignifiant d'une chaîne beaucoup plus grande que lui. La réflexion individuelle, la responsabilisation, c'est cela qui a manqué. Le Conseil national de l'ordre avait envoyé une lettre de mise en garde au Conseil de Charente-Maritime et oui, c'était insuffisant, reconnaît l'avocate. Elle présente à nouveau des regrets avec une promesse à la clé. Tous les efforts seront faits pour réparer l'avenir. Depuis l'affaire Le Skouarnec, diverses actions ont été engagées en coordination avec le ministère de la Justice. Le mois prochain, un magistrat aura fonction de conseiller judiciaire pénal auprès du Conseil national, en interface avec les conseils départementaux.
Florence Turme à Vannes. Les syndicats alertaient à l'approche des Jeux Olympiques de Paris sur un manque de main-d'œuvre dans le domaine de la sécurité. Finalement, il n'y a pas eu d'incident notable pendant l'événement, mais on se rend compte aujourd'hui que pour trouver en urgence des bras supplémentaires, eh bien, un certain nombre d'entreprises ont eu recours à du travail dissimulé. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Selon l'URSSAF, l'organisme en charge des recouvrements des cotisations sociales, 93 entreprises ont été verbalisées pour travail dissimulé pendant les Jeux. Et le montant total des redressements s'élève à 46 millions d'euros, les plus mauvais élèves étant les entreprises du secteur de la sécurité.
Oui, l'URSSAF avait pourtant mené des opérations de prévention dans les mois qui ont précédé. Certaines entreprises de la sécurité ont également corrigé le tir pendant l'été. Mais Emmanuel Delacherie, directeur de la réglementation du recouvrement et du contrôle de l'URSSAF, le souligne: au moment des redressements dans le secteur sécurité, le montant de plusieurs dossiers dépasse les 500 000 euros.
Le montant moyen des redressements dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, c'est de l'ordre de 250 000 euros. Quand on est sur un montant de redressement de 500 000 euros ou supérieur, eh bien on est deux fois au-dessus de cette moyenne générale. Et donc, on considère qu'on est sur un redressement ou des redressements significatifs.
Des montants élevés liés au nombre d'agents nécessaires pendant les Jeux. Pour Nadia Ben Mabrouk de la CGT, cette configuration a favorisé le développement de nombreux sous-traitants, parfois opportunistes.
Il y a des boîtes de sécurité qui ont été créées juste pour la cause et ils se sont gavés. Ils ont disparu du jour au lendemain. C'est des personnes qui recrutent pour d'autres personnes qui recrutent pour d'autres et qui ont fait travailler des personnes sans carte professionnelle et des personnes sans papier. Dans des conditions, mais je vous dis pas, des conditions catastrophiques. Ils travaillaient plus de 12 heures d'affilée, en fait, debout, pas de sanitaire, mais des conditions de travail déplorables.
La syndicaliste souligne aussi que le problème n'est pas nouveau. Les métiers de la sécurité souffrent depuis plusieurs années de leur manque d'attractivité.
Diane Berger, le temps sera faiblement pluvieux demain matin du sud-ouest au nord. Reste mais peu nuageux ailleurs et l'après-midi il fera souvent beau. Les températures 5 à 16 degrés au lever du jour, du nord-est à la Méditerranée, 15 à 24 l'après-midi.